Europe 1.
Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Vous connaissez bien sûr le roi Charles VII, celui que l'on surnommait le pauvre petit roi de Bourges, ce roi que Jeanne d'Arc fit sacrer à Reims le 17 juillet 1429, après qu'elle eut bouté les Anglois hors de France. Le successeur de ce roi Charles VII sera Louis XI, auquel une sinistre réputation colle à la peau, quoiqu'il fût l'un des plus grands souverains de notre histoire. Eh bien, Charles VII et Louis XI offre l'exemple le plus édifiant de mésentente père-fils de toute l'histoire de la monarchie française. C'est cette histoire familiale compliquée que je vais vous raconter dans ce nouvel épisode, cette fois-ci en trois parties. Troisième partie, Louis XI, père indigne. On pourrait croire qu'ayant lui-même beaucoup souffert de l'indifférence de son père, Louis XI aurait à cœur de ne pas reproduire les mêmes erreurs et de se montrer meilleur père que lui, pensez-vous. Il va tout au contraire se montrer bien pire. Dans ses mémoires historiques, publiées en 1782, Jean-François Dreux du Radier nous résume la situation par cette impitoyable formule.
« Mauvais fils, mauvais père, mauvais frère, mauvais sujet, mauvais roi, ennemi dangereux, mauvais allié, Louis XI fut aussi un mauvais mari. »
Un tableau accablant qu'il convient toutefois d'adoucir en précisant qu'au XVIIIe siècle, Louis XI, considéré de nos jours comme l'un de nos plus grands rois, était par excellence le souverain qu'il convenait de stigmatiser en réduisant notamment son action politique à l'utilisation des fameuses fillettes, ces cages où, selon la légende, il laissait pourrir ses ennemis. La réputation de cruauté de Louis XI est telle qu'une légende noire plane sur tous ses faits et gestes. Le 7 janvier 1477, Jacques d'Armagnac, duc de Nemours, est condamné à mort
pour faction, conspiration, machination, grands et énormes crimes, délits et maléfices par lui commis et perpétrés contre le roi.
La sentence est exécutée le jour même dans le grenier de la Halle à Poissons. Revue et corrigée par le temps, l'événement sera raconté bien différemment. Louis XI aurait fait élever un échafaud sous lequel on aurait placé les enfants du duc, revêtus de chemises blanches afin qu'ils soient maculés du sang de leur propre père, après quoi on les aurait enfermés dans des trois cachots biseautés afin qu'ils ne puissent s'y tenir ni debout ni couchés. Deux fois par semaine, ils auraient été battus et tous les trois mois, on leur aurait arraché une dent. 6 ans après l'exécution de leur père, ils se trouveraient encore à la Bastille. Mais de toutes ces atrocités, il n'existe aucune trace écrite. Elles sont donc probablement fausses et inutiles, car point n'est besoin d'aggraver le tableau pour reconnaître que Louis XI est capable d'une cruauté révoltante envers ceux qui y ont mis sa vie en danger. Point n'est besoin non plus d'évoquer les fils du duc de Nemours pour savoir que Louis XI n'a pas vraiment le sens de la famille. Il est vrai que le roi est constamment en déplacement et sans cesse accaparé par des affaires en cours, ce qui ne lui laisse guère le temps pour sa vie de famille. Mais ni sa femme ni ses enfants ne l'intéressent. Il perd ses deux premiers-nés, deux garçons, et se montre ensuite furieux d'avoir deux filles d'affilée, Anne en 1461 et Jeanne en 1464. Il en est même tellement déçu qu'il fait interdire les réjouissances habituellement organisées à la cour pour saluer la naissance d'un enfant royal. Sa fille Jeanne est élevée dans un lointain manoir. Elle est bossue, boiteuse et souffre de la petite vérole. Mais comment Louis pourrait-il le savoir, lui qui ne demande jamais de ses nouvelles? Le jour où la châtelaine de Lignières la lui présente, Jeanne a 7 ans et son père ne l'a pas vue depuis son baptême. Évidemment, pour Louis, c'est la surprise du chef.
Dès qu'il la vit, ce père dénaturé s'écria « Je ne l'aurais jamais cru si laide !» Et quand elle se jeta dans ses bras, il la repoussa brutalement.
Il acceptera toutefois que la petite Jeanne demeure à la cour, car elle a de nombreux dons artistiques et d'indéniables qualités de cœur qui la font apprécier de tous. Enfin, le 30 juin 1470, Charlotte accouche d'un fils, son 5e enfant. Cette fois, Louis XI quitte son air sinistre habituel et ordonne des cérémonies d'action de grâce et des réjouissances dans tout le royaume. Comment va-t-il se comporter? va-t-il bichonner son héritier ? Demander à ce que lui soit dispensée une éducation perlée ? Que nenni, nous dit Yvan Gobry, auteur d'une biographie du futur Charles VIII.
Après avoir tremblé pour sa succession, maintenant qu'il tenait le successeur, il retournait à sa vie quotidienne d'isolement et de méfiance. Il avait cloîtré sa femme et il cloîtra son fils unique.
Louis XI assigne en effet son fils à résidence au château d'Amboise, avec interdiction absolue de quitter les lieux. Il se passe ici un phénomène de transfert absolument fascinant sur le plan psychologique. Alors que le futur Charles VIII n'est encore qu'un tout jeune enfant, Louis XI l'imagine déjà en train de se comporter envers lui comme lui-même le fit naguère envers son père. À ses yeux, cet enfant, c'est sûr, le déteste déjà. Attribuant a priori à son fils les dispositions d'esprit et de cœur que lui-même avait nourries envers son propre père, il l'imagine déjà complotant contre lui et mijotant de l'assassiner. Pour neutraliser la menace potentielle que représente ce fils, il commence par le priver de précepteur. Louis n'agirait pas autrement s'il voulait délibérément faire de son fils un crétin des Alpes doublé d'un ignorant. Le dauphin est donc confié à la garde exclusive de sa mère et de ses gouvernantes, et l'on va jusqu'à ordonner à la garde de ne le laisser approcher par aucun homme. Avec ça, interdiction absolue de parler de lui à la cour. C'est comme s'il n'existait pas, comme s'il n'était jamais né. Après avoir été tant espéré, ce garçon est nié, ignoré. À tel point qu'il se dira sous cap que sa naissance est un mythe, une fable, que Louis XI fait courir pour juguler l'ambition des seigneurs qu'il soupçonne d'en vouloir à son trône et à sa vie. Il est vrai qu'en matière de haine et de convoitise, lui-même sait de quoi il parle. Injuste autant qu'absurde, l'attitude de Louis XI vis-à-vis de son fils est manifestement pathologique. Certes, son propre père ne s'était pas beaucoup occupé de lui lorsqu'il était enfant, mais tout au moins, lui avait-il affecté les meilleurs précepteurs possibles ? Et c'est Jean Gerson en personne, alors chancelier de l'Université de Paris, qui fut chargé d'établir son programme d'études. Par ailleurs, Louis était libre, libre d'aller et venir dans le château de Loches, comme bon lui semblait. Et il pouvait chasser, faire des promenades à cheval, apprendre le maniement des armes, indispensable à un futur chef de guerre, se procurer des livres. Rien de tout cela ne sera autorisé à Charles, qui sera cantonné dans ses quartiers comme un prisonnier d'État. Si le jeune prince ne reçoit aucun enseignement, sa mère dispose tout de même de quelques romans qui vont nourrir son imagination et développer cet esprit romanesque qui le conduira en Italie sur les traces des héros dont il aura entendu les exploits entre les quatre murs de sa prison. À 12 ans, alors que le dauphin est toujours illettré, Louis XI s'avise enfin de lui faire enseigner les premiers rudiments de lecture. La raison de ce brusque revirement ? À 57 ans, nous sommes en 1480, il vient de faire une crise d'apoplexie qui aurait pu lui coûter la vie et lui a fait réaliser qu'il était peut-être temps de s'intéresser à ce fils inconnu qui lui succédera. Louis se déplace alors en personne à Amboise pour porter à son fils un exemplaire des grandes chroniques de France afin qu'il commence à connaître un peu l'histoire du royaume qu'il est appelé à diriger. Mieux vaut tard que jamais. Pour Yvan Gobry,
Louis XI se souvient enfin au seuil de la mort qu'il est père et qu'il a un fils et héritier confiné à 6 lieues de lui.
Cette première entrevue, brève et empruntée entre deux êtres qui ne se connaissent pour ainsi dire pas, sera suivie le 21 septembre 1482 d'une autre rencontre, plus officielle, au cours de laquelle le roi se dira frappé par la juvénilité du dauphin qui lui semble faire bien plus jeune que son âge et par sa pâleur maladive. Après quoi, Louis adresse à son fils un pincem sur l'histoire du royaume de France, sur la façon dont lui-même l'a agrandi et sur la manière dont Charles devra le gérer. Il présente en quelque sorte à son héritier son propre testament politique. Puis, Louis demande avec insistance à Charles de conserver auprès de lui tous ses conseillers. Évidemment, Charles n'en fera rien. Sentant leur dernière heure arriver, les rois de France exigent toujours ce genre de choses de leur fils, mais jamais ils ne sont obéis. Il est d'ailleurs touchant de voir avec quelle opiniâtreté tous persistent à donner in extremis des directives qu'eux-mêmes, en des circonstances similaires, s'étaient empressés de faire passer à la trappe. À l'occasion de cette cérémonie, le dauphin fait tout de même à son père une émouvante déclaration de fidélité. Peut-être Louis XI eut-il alors un semblant de remords de s'être désintéressé à ce point de ce gentil garçon, d'avoir voulu le maintenir captif et d'avoir délibérément négligé son éducation. Pourtant, même après cet événement, le roi ne tentera pas de nouer une relation un peu plus intime avec son fils. Il aurait pu lui proposer de faire un petit tour avec lui dans le jardin, d'avoir un moment de complicité à deux. Trop tard. Le souverain est déjà trop faible et de toute façon, il ne sait pas faire. Louis XI meurt le 3 août 1483. Sur le bilan de ce règne, Paul Murray Kendall écrit dans la biographie qu'il dédie au roi
« Après 20 ans de règne, il se sera taillé en France une autorité telle qu'aucun de ses prédécesseurs n'en avait connue jusque-là. »
Trois mois après sa mort, le 1er décembre 1483, son épouse Charlotte de Savoie le suit dans la tombe. Charles VIII se retrouve donc orphelin à 13 ans et va devoir passer un an sous la tutelle de sa sœur aînée, Anne de Beaujeu, avant d'être en âge de régner. Ayant passé ses jeunes années à rêver d'Italie plutôt que d'apprendre à lire et à écrire, son règne de 15 ans sera presque uniquement consacré à la conquête du royaume de Naples et pour y parvenir, à la domination de l'ensemble de l'Italie. À son sujet, Murray Kendall est sans appel.
« C'est un bonnet inoffensif, amoureux des plaisirs. »
Contrairement à son grand-père Charles VII et à son père Louis XI, Charles VIII fut pourtant un homme de cœur, très affectueux et jouissant d'un heureux caractère, ce qui lui valut d'ailleurs le surnom de Charles la Fable. Sans doute, mais ce n'est pas de cette étoffe-là que l'on fait les grands rois. En conclusion, revenons en quelques mots sur Louis XI. Dans sa jeunesse, tous les éléments sont réunis pour réaliser un bon psychodrame familial. Une enfance solitaire, un père faible qu'il méprise et qui contrecarre par jalousie tout ce que son fils peut faire de bien. Une mère effacée. Une jeune belle-mère à la beauté éclatante, des demi-sœurs à jalouser, lui-même étant bien plus intelligent et plus ambitieux qu'un père qu'il piaffe de remplacer. C'est plus fort que lui. Louis ne peut pas se contenter de la seconde place. Ou bien il dirige, ou bien il complote et il nuit. Avant de quitter l'universelle aragne, comprenez l'araignée, car Louis XI était comparé par ses adversaires à une araignée qui tisse sa toile. Une ultime anecdote attestera assez bien de la complexité du personnage. Ainsi que nous l'avons déjà évoqué, il y eut bien un homme que Louis aima comme un père. Le duc de Milan, Francesco Sforza, l'un des hommes les plus brillants et les plus puissants d'Italie. Né en 1401, Charles VII est né, lui, en 1403. Il était donc en âge d'être le père de Louis. Il fut pour lui un véritable substitut de père, une autorité que Louis respecta, admira et aima. Quand on lui apprit la nouvelle de sa mort, le 8 mars 1466, Louis fut si triste qu'il fit raser le coin de forêt où lui-même se trouvait quand il avait appris cette disparition. Mais 4 ans plus tard, lorsque la reine Charlotte accouche d'un fils, Louis va-t-il le prénommer François en hommage au grand seigneur italien qu'il aimait comme un père ? Ce serait mal connaître ce grand roi si étrange. Placé devant le choix si important d'un prénom pour le fils qui lui succédera sur le trône de France, un nom, un seul, s'impose à lui. Et ce nom, bien sûr, c'est Charles. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai et je vous répondrai. Ce podcast est une création Europe 1 Studio. J'ai écrit l'épisode que vous venez d'entendre. La réalisation est signée Oscar Vatter. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Et si vous souhaitez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour un nouveau récit au cœur de l'histoire.